Bon, alors, en attendant peut-être que le courage vienne à ceux qui souhaiteraient prendre la parole, j'en profite. Je voudrais juste rebondir sur cette question de démocratie. Toujours Kant démocrate, et enfin, parfaitement d'accord avec ce que vous avez dit. Effectivement, l'ambivalence de Kant là, en fonction des textes, mais précisément, j'étais frappée par le recours à. Le recours à la lecture de Catherine Colliot-Hélène comme sorte de résolution de l'ambivalence ici, parce que moi, ce que j'ai retenu de la lecture qu'elle fait en réalité de Rousseau, hein, enfin, et de la place, enfin, de l'idée de souveraineté populaire chez Rousseau, et où elle montre, hein, si j'ai bon souvenir, dans La démocratie sans démos, qu'en réalité, Kant, en faisant clairement du contrat social une idée de la raison, une idée régulatrice, permettait clairement en fait d'enfoncer un clou qui était déjà présent chez Rousseau, à savoir cette idée que finalement la souveraineté du peuple, en tout cas, si on entend par démocratie la souveraineté du peuple, clairement, ce qu'il fallait admettre, c'est chez Rousseau comme chez Kant, un sens extrêmement déflationniste de cette idée, c'est-à-dire que cette souveraineté du peuple, il faut pas du tout la comprendre. En réalité, comme le fait que le pouvoir aurait le peuple aurait le pouvoir de gouverner ou autre, mais que, dit Catherine Colliot-Hélène, en réalité, cette idée-là, ça n'est jamais qu'une certaine forme de rationalisation du pouvoir. En gros, c'est un principe de légitimité, mais pour rebondir sur un thème qui vous est cher, c'est une fiction, clairement. Et je trouve que ça en dit long. Enfin, voilà, je vous soumets ça. Enfin, parce qu'en fait, c'est sur le sens aussi de démocratie qu'on engage dans ces cas-là. Et clairement, c'est vrai que chez Kant, l'idée de démocratie, si elle existe, elle est aussi vraiment liée avec l'exigence de la forme représentative de la politique. Et cette idée que, dans le même temps, voilà, le peuple n'existe qu'en étant représenté, qu'en étant médié. Donc par le législateur, enfin, par ses représentants, et sur cette idée de volonté collective du peuple, je trouve que ça déplace un petit peu aussi les choses. Voilà. Mais c'est un petit peu confus, pardon, comme expression des.
Tout, Elodie, c'est très juste ce que vous dites. C'est-à-dire que, alors d'abord, vous remarquerez que, à part quand je cite, parce que dans les textes que Christian Ferrier a traduits, qui sont des textes non publiés, on trouve cette remarque d'un élève de Kant qui envoie une lettre à un autre de ses copains en disant: Je viens de déjeuner avec le vieux Kant, c'est un démocrate complet. Donc j'ai juste cité ça parce que je trouvais ça marrant, mais vous remarquerez que je fais un très gros effort pour ne jamais utiliser le terme démocratie, en fait. Et si jamais je suis pris en défaut là-dessus, signalez-le moi, parce que je vais immédiatement l'enlever. Moi, je ne sais pas ce que c'est, je suis pas très envie de passer des heures à essayer de le définir. Vous me dites que c'est la souveraineté populaire, bon, très bien. Moi, je préfère autonomie politique, parce que ça, c'est déjà un tout petit peu plus clair, c'est-à-dire qu'on a un petit peu plus l'idée de ce que ça peut vouloir dire. Et je serais complètement d'accord avec vous pour dire qu'il y a un moment hobbésien chez Kant, de même que chez Rousseau, ça c'est sûr. C'est-à-dire que le peuple est une fiction, et c'est une fiction instituée par l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalisme au sens où le peuple existerait autrement que dans et par l'État. Ça, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, vous voyez bien ce qu'on veut dire quand on parle de Kant démocrate. C'est-à-dire qu'on parle en fait plutôt d'un projet d'émancipation, mais qui est aussi un projet d'émancipation politique, et qui pourrait être un projet qui chez lui toujours passe à travers le droit, mais qui ne concerne pas que la question de l'exercice de la souveraineté populaire, qui consiste enfin voilà, l'universalisation des droits politiques, l'émancipation des femmes, enfin toutes ces choses-là. Et de ce point de vue-là, le Kant que je vous présente n'est pas différent du tout de celui que Catherine propose. D'ailleurs, elle dit le Kant démocrate, mais dans ce sens-là, c'est-à-dire pas dans un sens technique de la souveraineté populaire, etc., disons le Kant chevelu, si vous préférez, ou le Kant, vous voyez, le révolutionnaire émancipateur qui, quand même, est très, 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 très heureux de ce qui se passe en France, quand même, et se dit quand même, ce serait génial si ça pouvait arriver ici, et qu'est-ce que je pourrais bien imaginer pour y contribuer. Celui-là, il vient hanter le camp de douaniers, il fonctionne comme un retour de folie, il est tout le temps là, en fait, il est tout le temps présent d'une manière ou d'une autre. Et cette manière qu'a Catherine de présenter les choses a l'immense mérite de nous permettre de jamais clore. Mais ça, il faut quand même resituer le. Je sais pas, dans le débat américain, par exemple, Kant est devenu le fondement de. Les images qu'on peut avoir de Kant et les usages qu'il peut y avoir de Kant sont quand même très très assis, comme dirait Rimbaud. Hein. Donc le fait de remettre un petit peu d'énergie là-dedans me paraît très très important. Alors voilà, c'est ça que j'ai voulu faire. Maintenant, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites sur la sur le fait qu'il n'y a pas un peuple qui agirait en dehors de sa constitution par l'État. Ça, je suis sûr.
Merci, merci beaucoup. Non, mais après voilà, non, mais c'est moi. Enfin, disons que c'est l'idée d'autonomie, mais qui n'est pas ici corrélée à l'idée d'auto-législation du peuple. Voilà, c'est plus ce paradoxe en fait.
En tout cas, pas seulement. Mais vous voyez, il y a quand même une question autour de l'universalisation des droits politiques. Vous voyez, enfin, on ne peut pas complètement non plus dire qu'il ne se passe rien sur ce terrain-là. Mais oui, je pense. Kantien est beaucoup plus vaste que ça et concerne tout un tas d'autres aspects, dont les lumières, l'opinion publique, etc., etc. Mais c'est vrai qu'il n'aime pas beaucoup les journées populaires.
Mais l'enthousiasme est certain. C'est vrai que le spectre révolutionnaire, je suis d'accord, enfin, est quand même présent.
Il est ambivalent là aussi, parce qu'il n'aime pas les journées populaires, mais il aime bien ce que ça fait quand même. C'est-à-dire qu'en 3 journées populaires plus loin, on a un État républicain, il n'arrive pas à trouver ça vraiment mal en fait.
Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Enfin, voilà.